Et votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bien le bonjour messieurs, dames et bienvenue pour cette nouvelle émission de Culture et vous, l'émission de pop culture de Transistor. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison qui, je vous l'assure, sera pleine de nouvelles références à la culture populaire que nous aimons tant. Et si je ne vous dévoile pas encore tout le programme de cette année, je peux quand même vous dire que vous allez frissonner. Vous allez aussi partir à la rencontre des gens qui se mettent tout nus, vous faire tirer le portrait par des artistes hauts en couleur, et vous passerez peut-être même au-delà de l'arc-en-ciel. En voilà un sacré programme. Mais avant de nous lancer dans ces nouvelles émissions, passons déjà à notre sujet du jour. Mois d'octobre et fête d'Halloween oblige, j'ai voulu célébrer les morts et les monstres effrayants. Et pour ça, j'ai choisi de vous parler d'une véritable icône de la culture populaire, une créature qui a pris au fil des siècles différents noms et de nombreuses apparences, un personnage sanguinaire qui aurait sévi partout dans le monde et qui continue encore aujourd'hui à tenir le haut du pavé des créatures maléfiques. Vous l'avez deviné, l'émission du jour est consacrée au mythe du vampire. Mais qui est-il vraiment ce vampire? Quand et comment la légende est-elle sortie de sa tombe? Et quelles sont encore aujourd'hui ses influences sur la culture pop? Pour répondre à toutes ces questions, on va parler de littérature bien sûr, de télévision et de cinéma. On s'arrêtera d'ailleurs sur l'une des œuvres les plus connues du 7e art en matière de vampires, le film Dracula de Francis Ford Coppola. Alors c'est parti, préparez vos gousses d'ail et vos crucifix, on part tout de suite à la rencontre de Nosferatu et consorts. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culture et vous. Strige, Oubir, Nastitieur, Ramanga, Strigoi, autant de noms et autant d'origines pour désigner une seule et même créature maléfique, le vampire. Selon ses racines, le vampire agit et fonctionne différemment, mais reste toujours une âme damnée, un non-vivant en quête de sang. En 1900, le Nouveau Larousse illustré est le premier dictionnaire à définir les vampires comme étant des « morts qui sortent de leur tombeau, de préférence la nuit, pour tourmenter les vivants, le plus souvent en les suçant au cou, d'autres fois en les serrant à la gorge au point de les étouffer ». Le nom vampire, quant à lui, est un mélange provenant de plusieurs pays. L'Allemagne, la Tchéquie, la Roumanie, la Hongrie et même la Pologne. Et si on n'a pas de date précise concernant les origines de la bête, on sait quand même que déjà en 4000 avant notre ère, soit dès l'âge de bronze, les Assyriens croyaient au mythe des Edmu. Les habitants de la Syrie actuelle étaient persuadés qu'il existait des démons buveurs de sang qui venaient mordre et transformer leurs victimes en êtres maléfiques.
Vous êtes sur Transistor et vous écoutez Culturez-vous.
Plus tard, à l'époque de la Grèce antique, on retrouve le personnage de Lamia. C'est une autre forme de vampire qui au départ se contentait de séduire les hommes pour boire leur sang, puis petit à petit s'est transformée en espèce de croque-mitaine qui kidnappait et dévorait les bébés. Et oui, à ce moment-là, le niveau de médecine et d'explication rationnelle est tout de même limité. Alors pour justifier l'horreur de la mort subite du nourrisson, les populations préféraient trouver un bouc émissaire, tout imaginaire soit-il. Cette technique, on peut dire qu'elle a clairement traversé les siècles et les frontières. Et si chaque époque et chaque coin du monde a toujours eu sa version du vampire, c'est quand même à partir du 15e siècle en Europe que son portrait officiel va commencer à se dessiner. Durant cette période, l'Europe va connaître de nombreuses épidémies, peste, choléra, tuberculose et j'en passe. Dans l'actuelle Tchéquie, des commissions d'enquête sont carrément mises en place à travers tout le pays. Les villageois en panique veulent des réponses à toutes ces morts qu'ils voient comme mystérieuses et maléfiques. Même le pape Innocent VIII, alors à la tête de l'Église, reconnaît officiellement les non-vivants. La déménologie ou l'étude des démons et autres mauvais esprits devient officielle. Mais la religion catholique, toute puissante soit-elle, ne peut stopper les épidémies. Les morts s'enchaînent et la population va rentrer dans une psychose collective. Si certains pays comme les Balkans s'appuient déjà sur de nombreuses légendes pour expliquer certains phénomènes, c'est au tour de l'Europe de l'Ouest de basculer dans la peur des revenants. The world is a vampire. Vous êtes de retour sur Culture et vous, l'émission de pop culture de Transistor. Et on continue de parler du revenant le plus célèbre de la pop culture, le vampire. Nous sommes dans l'Europe du 18e. La religion catholique est au taquet. Nous sommes en plein siècle des Lumières et pourtant, les croyances populaires n'ont jamais connu un tel succès. La population, toujours confrontée aux maladies tenaces, continue de chercher des réponses à tous ces décès. Et ça jusque dans les cercueils des défunts. Et oui, à cette époque, certains villageois soupçonnent leur mort de revenir à la vie pour hanter leur famille et leur village. Mordus par un autre vampire, suicidés, non baptisés, hérétiques, nombreux sont les raisons pour lesquelles un humain lambda peut se transformer en créature de la nuit. Et si chaque ville, chaque bourg, chaque patelin a sa petite histoire, certaines se propagent encore plus vite qu'une belle variole. La première qui a suscité un véritable intérêt auprès des foules est celle de Mikhaël Kasparek. Vendeur de vin hongrois, Mikhaël Kasparek meurt en 1718 après un procès pour vol de marchandises. Peu après sa mort, les habitants de la ville sont persuadés que Mikhaël revient toutes les nuits pour hanter sa veuve. Il aurait même été vu en journée attaquant les paysans et mettant le feu aux maisons. En pleine frénésie anti-vampire, la superstition prend clairement le pas sur la raison. Les autorités lancent une enquête et font de Mikhaël Kasparek le premier cas de vampirisme officiel établi en Europe. Son corps est alors déterré et décapité avant d'être brûlé.
Une émission de culture populaire, c'est Culturez-vous sur Transistor.
L'histoire de Peter Plogojovitz a également beaucoup fait parler d'elle. En 1725, ce paysan serbe rentre chez lui en demandant à son fils de lui préparer un repas. Le fils s'exécute, le père mange, puis repart de la maison. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que l'homme de 62 ans était mort et enterré depuis 3 jours. 2 jours plus tard, il refait la même, sauf que là, son fils refuse de le servir. Le lendemain, le fiston fut retrouvé mort, comme 9 autres villageois, quelques jours plus tard.
Bizarre. Vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Les habitants de Kisilova, certains d'avoir alors affaire aux forces du mal, décident d'ouvrir la tombe de Peter. Ils y auraient trouvé un cadavre, intact, la bouche et les oreilles dégoulinant de sang. C'était donc vrai. Peter était bien un vampire. Ni une ni deux, la foule va chercher un pieu qu'elle plante dans le cœur du défunt avant de brûler son corps parce que bon, on n'est jamais trop prudent. L'histoire du paysan serbe revenu d'entre les morts se répand à la vitesse de l'éclair. Partout en Europe, on tremble de peur. La psychose est partout, les maisons se parent d'ail, d'aubépines et de crucifix, censés éloigner les vampires. Les corps des morts soupçonnés d'être des serviteurs du démon sont exhumés. On leur plante des pieux dans le cœur, on les décapite, on les démembre et certains se font même empaler. Pourtant, en plein siècle des Lumières, nombreux sont les scientifiques et autres érudits qui tentent de poser des explications sensées sur tous ces phénomènes. Et oui, comment expliquer que les corps soient encore parfaitement conservés? Comment expliquer le sang qui coule des lèvres des morts? Comment expliquer ces nouvelles canines et ces ongles démesurés? Comment expliquer le râle que produit le cadavre quand on lui plante un pieu dans le cœur? Et comment prouver que tout ça n'est pas l'œuvre du diable?
C'est diablerie, c'est
diablerie. L'érudit et réputé abbé Augustin Calmet publie en 1746 un essai retraçant de nombreuses histoires de vampires qui deviendra vite une référence. Malgré son intention d'expliquer de manière rationnelle ces événements troublants, l'homme d'église ne peut s'empêcher de considérer certaines de ces histoires comme étant liées au pouvoir du surnaturel. Et pour ça, il sera moqué par de nombreuses personnalités, le philosophe Voltaire en tête de file. Alors ok, on se moque, mais quelles sont donc les explications scientifiques à toutes ces étrangetés cadavériques? Comme dirait Jamy, c'est très simple. Le corps humain, quand il se décompose, a la peau qui rétrécit, ce qui explique les canines et les ongles qui semblent être plus grands. De même, pour le sang qui coule de la bouche, ce sont simplement les organes internes qui se putréfient et produisent un liquide qui s'échappe, ma foi, par là où il peut. Quant au cri poussé par certains cadavres, il est dû, lui, à l'air enfermé dans la cage thoracique, qui, quand on le libère de façon violente, genre avec un pieu dans le cœur, peut produire un drôle de son en sortant par la gorge. Et si pour beaucoup, la preuve du vampirisme est liée au fait que le mort ne pourrisse pas du tout, là encore, on a une explication. La saponification. Quand vous êtes enterré dans des environnements froids et humides, vos acides gras se transforment en une substance cireuse qu'on peut assimiler à du savon. Cette substance recouvre votre corps et évite qu'il se décompose rapidement.
Oui, d'accord. J'ai compris.
Nous voilà au 19e siècle et la paranoïa sur les spectres, goulets et autres vampires bat son plein. C'est dans ce contexte que lors d'une soirée pluvieuse se retrouvent le célèbre poète anglais Lord Byron, John Polidori et ses amis Mary et Percy Shelley. En séjour dans une demeure au bord du lac Léman près de Genève, les quatre amis s'ennuient et se lancent le défi d'écrire chacun une histoire de revenant, histoire de s'occuper un peu. Et de cette soirée vont émerger deux personnages qui marqueront à jamais la littérature et la culture populaire. Le premier, on le doit à Mary Shelley. La jeune fille de 19 ans particulièrement inspirée imagine l'histoire d'un savant qui va faire naître une créature monstrueuse qui se retournera finalement contre lui. Et oui, c'est bien la créature de Frankenstein qui vit le jour ce soir-là. En parallèle, Lord Byron écrit lui une histoire de vampire, mais le poète n'est pas franchement convaincu. À l'inverse de son docteur et assistant John Polidori, qui va récupérer le brouillon de Byron et s'en inspirer pour écrire sa propre nouvelle de vampire. Et visiblement, ça marche. Polidori publie son histoire peu de temps après et elle cartonne, devenant même une référence en termes de littérature gothique du 19e siècle. Voilà comment celui qui n'était qu'un simple médecin devint l'écrivain qui imposera à jamais la représentation classique du vampire. Un homme au teint pâle et aux canines acérées, élégant, fortuné, séducteur et maléfique.
Lem, lem, love, gonna hit some pom-pom. All we need is get some of it, need to get drunk. I'm here to say hello, watch above and below. Guns under pillows, never help, just call your mama. We'll drink all of it, don't need a plumber. We're gonna empty it, just like a vampire. Lovely limbs, gonna eat you, yum, yum. Chew you like a gum-gum, drink your blood like a soda. I'm here to build up an empire, cause I'm a vampire, better hide in a bunker. Gonna cook you with pepper and watch out for my jawline, gotta need to be filled up. And if you run, I will walk, we will always find you. And if you climb up walls, I can always reach you.
a huge stomach. It'll be warm and sweet, lemon coconut. Is it an exodus? You can't escape from us. Get used to this. Get in your 10 minutes. Call your grandmama and all the friends you got. I'm the new Dracula. I need a hangover. I'm gonna fill this cup. I send me your ketchup. I'm gonna drink you up until the final drop. I'm here to build up an empire, 'cause I'm a vampire. Better hide in the bunker. Gonna cook you with pepper and lime. Watch out for my jawline. Gotta need to be filled up. And if you run, I would walk, but we'll always find you. And if you climb up walls, I can always reach you. I'm here to build up an empire, 'cause I'm a vampire, 'cause I'm a vampire. An empire, 'cause I'm a vampire. Better hide in the bunker. Gonna cook you with pepper and lime. Watch out for my jawline. Gotta need to be filled up. And if you run, I would walk, but we'll always find you. And if you climb up walls, I can always reach you. I'm here to build up an empire, 'cause I'm a vampire.
Vous écoutez toujours Culturez-vous sur Transistor, qui explore aujourd'hui le mythe du vampire. Nous sommes en 1897 et un écrivain va définitivement faire du vampire un personnage culte de la culture populaire. Il s'appelle Bram Stoker, il est anglais et à 50 ans, il publie un roman appelé Dracula. Référence classique de la pop culture, cet ouvrage a clairement forgé le mythe du vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bram Stoker aura mis 10 ans à l'écrire. 10 ans de recherches poussées sur les légendes des Balkans, à explorer les journaux, à s'inspirer de nouvelles sanglantes et surtout à s'intéresser à la vie d'un noble roumain, Vlad III, dit l'Empaleur. Ce seigneur des terres valaquies était connu pour sa violence envers ses ennemis et notamment pour sa spécialité, l'empalement. Bram Stoker s'est pris de passion pour celui qui se faisait appeler Draculea, qu'on peut traduire du roumain par « fils du dragon », et s'en est clairement inspiré pour créer son personnage du comte Dracula. Son roman Dracula est publié en 1897, et même si à ce moment-là, les histoires de fantômes ont bien plus la cote que celles des vampires, il va connaître un énorme succès.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor, présenté par Audrey.
Le tour de force de Stoker, c'est déjà un style d'écriture tout à fait novateur. L'auteur utilise différents supports dans ses pages qu'il écrit à chaque fois à la première personne. Il s'appuie sur les journaux intimes de ses personnages, sur des télégrammes qu'il s'envoie, des comptes rendus médicaux qu'il retranscrive ou encore des lettres qu'il s'envoie. Ce qui fait que le lecteur est plongé dans l'histoire. Il vit directement avec tous les protagonistes. Et la différence avec les autres écrits qui pouvaient traiter des vampires, c'est que Bram Stoker fait de la créature maléfique un personnage que l'on peut prendre en pitié. Pour une fois, le vampire n'est plus seulement le monstre qui suce le sang des pauvres victimes hurlantes, il devient l'être damné et condamné à souffrir pour l'éternité. Parce que dans son roman, le comte Dracula perd l'amour de sa vie. Persuadé qu'il a été tué à la guerre, la comtesse se jette du haut d'une tour. L'église répudie la comtesse qui s'est suicidée et n'a donc pas le droit à l'absolution et au paradis. Le comte Dracula, dévasté, maudit l'église et abandonne son âme aux forces du mal. Il se transforme alors en vampire, créature de la nuit aux multiples pouvoirs qui va errer dans son château durant des siècles. L'auteur, 400 ans plus tard, fait alors apparaître Jonathan Harker, un jeune clerc de notaire fraîchement débarqué de Londres pour revendre des biens immobiliers. Très vite, Harker va se rendre compte que ce château menaçant est aussi l'antre d'un monstre. Le comte Dracula, lui, file vers la capitale anglaise pour retrouver la fiancée de Harker, persuadé qu'elle est la réincarnation de sa femme disparue. La suite est pleine de suspense, d'horreur, de rebondissements et de nouveaux personnages comme le chasseur de vampires Van Helsing. Mais chut, dans Culturez-vous, il n'y a pas de spoil. Alors foncez lire le livre ou plongez-vous dans les adaptations ciné.
Dracula, un nom qui sème l'épouvante. Dracula, le terrifiant vampire. Ce destructeur de vies humaines qui se nourrit la nuit du sang d'innocentes victimes craint la lumière du jour plus que les hommes. Dracula, le grand maître du mal.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du film de 1958 avec Christopher Lee, Le cauchemar de Dracula. Ce film fait partie des quelques 650 adaptations du personnage qui ont été faites depuis sa création en 1897. Dracula est une véritable icône de la pop culture. Que ce soit dans les livres, les films, les séries ou même les pubs, il est partout et ça depuis un paquet d'années. Mais ce qui est quand même génial, c'est que dans ces adaptations, on retrouve toutes sortes de contes Dracula ou simples vampires. Dans le florilège des références les plus connues, on a forcément le Dracula de Coppola, qu'on regardera d'un peu plus près dans la suite de l'émission. On a aussi tous les films avec Christopher Lee, qui a été et qui reste pour beaucoup l'incarnation ultime de Dracula de 1958 à 1973. Dans les années 90-2000, on a eu pléthore de reprises sur le thème du vampire avec les classiques Blade, Entretien avec un vampire, Une nuit en enfer, la saga Underworld et bien sûr la cultissime série Buffy contre les vampires.
Choisi pour se battre.
Je m'appelle Buffy et toi, tu disparais.
Entraîné pour être la meilleure, combattez le mal, ramenez Buffy chez vous.
Si les monstres débarquent, bipez-moi.
Mais l'une des références les plus marquantes en matière de films de vampires est Nosferatu, bien sûr. Ce long métrage allemand de 1922, réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, est l'un des premiers films de vampires à sortir au cinéma. Le vampire est petit, chauve, a des mains difformes aux doigts longs et crochus, ses dents ressortent de sa petite bouche et son regard perçant vous file la chair de poule. Nosferatu, ou non-mort si on le traduit en roumain, c'est l'histoire du comte Orlok, châtelain de Transylvanie, qui, pour acheter un bien immobilier, fait venir dans son château un jeune clerc de notaire. Uther, le jeune clerc qui est promis à la jeune Hélène restée en Allemagne, se rend vite compte que le comte Orlok est particulièrement étrange. Une impression de déjà-vu peut-être ? Eh oui, Nosferatu, c'est bien l'histoire de Dracula écrite par Bram Stoker, mais en version allemande. À l'époque, deux producteurs germaniques veulent réaliser un film adapté de Dracula. Oui mais voilà, les droits d'auteur qu'ils doivent payer à la fondation de Stoker sont bien trop chers pour leur société de production. Un problème ? Une solution. Les producteurs vont réécrire le scénario en changeant juste les noms des persos et déplacer l'intrigue de Londres à Wiesbourg en Allemagne. Ni vu, ni connu. Enfin, pas si ni vu que ça quand même. Parce que si aujourd'hui Dracula est tombé dans le domaine public et tout le monde peut se servir de son image gratuitement, en 1922 ce n'est pas le cas. Florence Stoker, la veuve de l'écrivain, surveille de près les plagiats. Et forcément, Nosferatu, malgré ses 2-3 changements, en fait partie. Acculée, la société de production Prana Film est condamnée à la banqueroute. Nosferatu sera son seul film. Pire, Florence Stoker exige que toutes les copies du film soient entièrement détruites. Heureusement, l'une d'entre elles sera sauvée et nous permettra d'admirer ce chef-d'œuvre du cinéma muet.
Vous êtes sur Transistor et vous écoutez Culture et vous.
C'est ici que se déroula l'effroyable et révoltante histoire du prince Dracula et de la femme qu'il aimait.
J'ai traversé les océans d'éternité pour vous trouver. Mia. Dracul.
À la fois jeune et vieux. Il peut devenir brume, vapeur, brouillard. Et disparaître à volonté.
Oh mon âme.
Le pouvoir de son désir maléfique est sans limite.
Si le Dracula de Todd Browning de 1931 a marqué les esprits, c'est bien celui de 92 réalisé par Francis Ford Coppola qui reste gravé dans de nombreuses mémoires. Considéré comme l'adaptation la plus fidèle du roman de Bram Stoker, il a pourtant failli ne pas voir le jour sous cette forme. De base, un scénario de téléfilm sur l'histoire de Dracula a été proposé à l'actrice Winona Ryder. Celle-ci accepte le rôle, mais le projet est finalement annulé. Elle contacte alors le réalisateur qui vient de finir Le Parrain 3 pour lui proposer d'en faire un long métrage. Coppola accepte et se lance alors dans l'une de ses meilleures réalisations. Pour commencer, il s'entoure d'un casting 5 étoiles. Winona Ryder, donc, pour jouer le rôle de Mina, le jeune acteur prometteur de l'époque, Keanu Reeves, pour incarner son fiancé Jonathan Harker, Anthony Hopkins en Van Helsing, le chasseur de vampires, et le magistral Gary Oldman en tant que comte Dracula. Gary Oldman est ce qu'on appelle un acteur caméléon, qui se transforme au gré des rôles et de leur apparence. Rien que pour Dracula, Oldman va incarner 4 versions du personnage. Le vieux comte, le jeune prince Vlad, la version loup-garou du vampire et la chauve-souris XXL. Acteur adepte de l'acteur studio, il n'hésite pas à se donner à fond pour préparer ses rôles.
Et vous a envoyé un cercueil, Francis Ford Coppola, et vous y avez dormi pendant des nuits et des nuits.
For a bit. Yeah.
Oui, un petit peu, oui.
Yeah.
Et alors, c'est à refaire ou
I don't do coffins anymore.
Non, je ne fais plus le cercueil. Non, c'est fini. Je suis trop vieux pour les cercueils.
En même temps, avec un réalisateur comme Francis Ford Coppola, on ne peut que suivre. Le cinéaste, en plus de son super casting, va également travailler avec une équipe fidèle et particulièrement brillante, notamment au niveau des décors et des costumes. C'est l'artiste Eiko Ishioka qui sera chargé de créer les magnifiques costumes dans lesquels on peut retrouver des références à de grands peintres, comme avec le costume final de Dracula, un hommage direct à Gustav Klimt et son tableau Le Baiser. Ces superbes tenues ont d'ailleurs offert à l'équipe du film l'un de ses 3 Oscars, les 2 autres étant pour les maquillages et le montage sonore.
Culturez-vous, une émission populaire sur Transistor.
Depuis toujours, les vampires fascinent. Si avant ils faisaient partie du folklore et de l'imaginaire collectif, aujourd'hui ils sont aussi devenus un business fort juteux. Clairement, le cinéma fait partie des exploitations les plus rentables, notamment avec des sagas telles que Twilight. Adaptées des romans de Stephenie Meyer qui avait déjà fait un carton, les 5 versions ciné ont chacune rapporté en moyenne plus de 500 millions de dollars. C'est dire si le vampire a la côte. Après, on est clairement loin du conte Dracula avec ses canines saillantes, sa cape noire et sa transformation en chauve-souris. Le vampire pour ado type Twilight ou Vampire Diaries est beau gosse, mystérieux et beaucoup plus humain que monstrueux, surtout en matière de triangle amoureux. Des vampires à l'eau de rose, donc, pas franchement crédibles en matière d'horreur, mais qui ont su se faire une place dans la pop culture. Mais si vous êtes plutôt amateur de vampires qui foutent les chocottes, deux nouvelles adaptations sur grand écran sont à venir. La première est pour décembre 2024. C'est un remake du Nosferatu de 1922 avec au casting Billy Sasgard, que l'on a déjà vu en clown horrifique dans la saga Ça. On retrouve aussi l'excellent Willem Dafoe et pour incarner la jeune fiancée possédée, le réalisateur Robert Eggers a fait appel à la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Lily Rose Depp. En 2025, c'est Luc Besson qui va proposer sa version. On a déjà le nom du film, Dracula, A Love Tale. Et si pour le moment, on dit que l'histoire va se baser sur le livre de Bram Stoker, il faudra quand même attendre un peu avant d'en savoir plus. Mais pour patienter jusque-là, rendez-vous avec la prochaine émission de Culture et vous qui sera, comme toujours, pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. Et d'ici là, je vous fais des bisous, des bécos et vous dis à tantôt.
Aye, oh.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.